ici une foule de questions, et puisque vous me permettez de poser qu'une seule question maintenant, je vais poser une question qui est fondamentale. Quel est le rôle fondamental de la France au sein de l'évolution mondiale?
Je vous accueille avec grand cœur pour partager ces quelques mots, ces quelques idées, mais qu'il soit clair dans vos esprits qu'avant tout, ce qui va être échangé, c'est une onde, une vibration. Non pas que je veuille placer le discours uniquement sur le plan de la vibration, sur le plan de l'aura, mais il faut en être conscient pour que chacun puisse continuer à travailler quelque part en lui-même. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y aura quelque chose que quelqu'un va vous apporter, que quelqu'un va vous donner, que ce soit par un contact direct ou indirect, c'est-à-dire que ce soit en vous touchant ou en ne communiquant qu'au niveau de la pensée, il va falloir que vous continuiez chez vous, de façon privée, à cultiver ce qui a été donné. Il ne faut pas donc répertorier, comme l'on répertorie une connaissance ou une science que peu à peu, jour après jour, on développe. Il faut au contraire apprendre à arroser ce qui est acquis. Là est toute la différence entre celui qui collectionne la connaissance et celui qui intègre la connaissance. Pour intégrer la connaissance, il faut apprendre à arroser. Pour continuer sur ce discours, qui est le discours dont la salle a besoin aujourd'hui, je vais donc complètement ignorer la question qui a été posée, ce qui ne veut pas dire que la question n'est pas intéressante. Simplement, positionner la France spécialement dans ce discours n'est pas une chose bienvenue. Non pas que la France n'ait pas de rôle, non pas qu'elle se soit un petit pays qui ne peut donc pas avoir de rayonnement, non pas non plus que le sujet soit inintéressant, mais tout simplement parce qu'en fait, quelle que soit la destinée des nations et les destins particuliers qu'ont les nations, cela ne dépend que des hommes qui habitent les nations de faire en sorte que le destin de la nation s'effectue. Donc il ne sert à rien de se dire la locomotive la France, ou la locomotive la Belgique, ou la locomotive la Suisse, ou la locomotive les États-Unis, comme une grande entité impersonnelle qui transporte tout le monde. Il ne sert donc rien de se dire que cette grande entité va aller quelque part. Cette grande entité est constituée par tous ses habitants. Donc il faut que chacun des habitants réagisse, il faut que chacun prenne en main des responsabilités et effectue, et soit le témoignage d'une certaine spiritualité ou d'un certain changement, en tout cas d'un certain avancement. Il ne sert à rien de discourir sur la destinée des nations si à l'intérieur des nations, les individus en tant que disciples ne bougent pas, ne font rien ou ne s'épanouissent pas. La nation pourrait être astrologiquement prévue pour un grand rôle, il n'arrivera rien. Car lorsque l'on parle de la destinée des nations, en fait, il s'agit d'étudier astrologiquement la puissance des nations. Mais de la même façon que l'astrologie ne peut pas forcément envoyer un individu dans la destinée qui est prévue dans les astres, un pays ne peut pas non plus être lancé dans la destinée qui est souhaitée par les maîtres ou par les guides ou par les citoyens. Il faut donc que chacun prenne les astres sous son bras, en face des alliés et avance avec les astres, sans attendre que la locomotive la France ou la locomotive des autres pays entraîne les citoyens vers un destin. Fondamentalement, chaque homme est responsable de ce qu'il a, chaque homme est responsable de ce qu'il va avoir et de ce fait, il est responsable de ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Ce qui ne veut pas dire que les individus sont seuls avec leurs responsabilités et que Dieu se croise les bras dans un coin du ciel ou que les guides attendent que chaque homme ait gagné ou ait mérité une aide quelconque. Constamment, les énergies sont envoyées pour fortifier, pour incliner les hommes vers l'avancement, vers le changement, vers le développement. La seule différence qu'il y a là-dedans, c'est que les hommes qui débutent dans le chemin croient que la seule influence suffit à construire le chemin. Or, c'est faux. Les énergies qui sont envoyées, les impressions qui sont envoyées par la hiérarchie ou par les maîtres ou par votre guide personnel, toutes ces impressions, toutes ces intuitions-là ne sont que des matériaux qu'il va vous falloir apprendre à utiliser et à concrétiser. C'est un peu comme si sur un chantier, l'on projetait de bâtir une cité nouvelle et exemplaire. La cité est toute bâtie, c'est vrai, mais dans l'esprit de l'architecte, dans l'esprit du maçon. Et tout y est noté sur le plan. La dimension, la profondeur des fondations, tout y est absolument noté. Donc, on pourrait croire que la cité existe. Cependant, il va falloir réunir les matériaux. Et c'est ça la construction. La construction, ce n'est pas tellement prévoir le plan, c'est avant tout savoir réunir les matériaux. Et c'est là que le maçon est indispensable par rapport à l'architecte qui lui va concevoir et choisir les matériaux. Le maçon va être indispensable parce que c'est lui qui, grâce à son expérience, grâce à sa force, à sa volonté, va faire en sorte d'aménager les matériaux ensemble pour que la cité tienne debout, que la construction ait lieu. En spiritualité, c'est exactement la même chose. Que l'on parle de votre destin individuel ou que l'on parle du destin des nations, cela n'a aucune importance. C'est la même chose. Car une nation, c'est une entité qui réunit des millions d'individus. Mais c'est une entité aussi. Donc, le destin d'un pays inclut le destin de millions d'hommes. Il inclut votre destin. Et selon comment le destin de ces millions d'hommes, selon comment ce destin va être assumé, changé ou amélioré, le destin du pays, lui aussi, va être changé ou amélioré, ou bien détruit ou infériorisé. Donc, pour revenir à cette intégration dont je parlais, et à la construction du maçon, pour qu'il y ait une spiritualité vraie et authentique, dont vous pouvez user et bénéficier chaque jour, car c'est cela qui est important en spiritualité, c'est de pouvoir en bénéficier chaque jour. Il y a des millions et des millions d'individus sur Terre qui croient en Dieu, ou qui croient dans les maîtres, ou qui croient dans les esprits, et qui font ainsi collection de leurs croyances. Ils se disent « je crois en ceci, c'est acquis, je crois en cela, c'est acquis, je crois en cette autre chose, c'est acquis ». Et ils collectionnent ainsi au fur et à mesure tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme connaissances ou comme renseignements. Mais à l'intérieur, leurs problèmes restent les mêmes. Quand ils sont à l'extérieur, dans la vie, leurs problèmes restent aussi les mêmes. Et il n'y a pas plus de bonheur qui s'est installé, ou pas plus de liberté spirituelle qui s'est installée, ou pas plus de sentiment de plénitude. Il y a donc sur le chemin deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité de ceux qui la conçoivent comme l'architecte et il y a la spiritualité de ceux qui la bâtissent comme le maçon. Ceux qui conçoivent la spiritualité et qui font des plans et qui peuvent même refaire le plan de l'univers lui-même tout entier, ces êtres-là n'arrivent jamais à entrer sous le toit de leur maison dans la cité nouvelle, car en vérité la maison n'existe pas. Elle existe dans leur esprit, elle existe sur les plans, ils en connaissent les moindres recoins, mais ils n'ont rien pour entrer à l'intérieur car elle n'est pas manifestée, cette cité. Et puis il y a la spiritualité du maçon, qui lui ne sait peut-être pas forcément lire l'entier du plan, qui ne sait peut-être même pas forcément tracer un plan, mais qui va essayer de se construire, ne serait-ce que pour commencer, une cabane. Et il va user pour cela de son intelligence, il va regarder ce qu'a mis la nature à disposition pour faire un toit. Il va se dire, tiens, là, il y a de la terre. Tiens, là, il y a des branches et des feuilles mortes. Tiens, là, il y a un peu d'eau. Eh bien, je vais construire des briques que je vais faire sécher, que je vais empiler. Et comme toi, je mettrai simplement des branches et plus tard, j'inventerai quelque chose. À côté de l'architecte qui, lui, parle d'un palace, la cabane du maçon a l'air ridicule. Mais pourtant, au jour de l'orage, au jour d'un problème, le maçon est beaucoup plus à l'abri que l'architecte. C'est là la grande différence que l'on voit dans les comportements tout au long de la vie entre ceux qui connaissent énormément la spiritualité et ceux qui intègrent ne serait-ce qu'un peu la spiritualité. Lorsqu'il y a les événements, automatiquement, le maçon va réagir de façon beaucoup plus authentique, de façon beaucoup plus réelle et plus spirituelle que l'architecte. Pour donc développer sans arrêt cette authenticité, permettre cette intégration, il faut avoir sans cesse à l'esprit le souci de ramener les choses à l'intérieur. Il est bon d'être un architecte et de pouvoir tout concevoir, de pouvoir créer une cité fantastique, mais il faut à un moment donné remonter les manches, prendre la pioche et creuser les fondations. Première des choses. Creuser les fondations. Je ne veux pas ici parler d'architecture, mais je veux simplement, en m'aidant de l'architecture, démontrer combien le chemin spirituel est exactement le même que la construction d'un bâtiment. Pour que le bâtiment tienne debout et qu'il soit fort, il lui faut des fondations très profondes. Donc il faut que les murs du bâtiment entre profondément dans la terre. Pour le maçon qui, lui, va alchimiser la construction, qui va sans arrêt transposer la construction de sa maison sur la construction de son propre temple intérieur, il va se dire, tiens, si je dois construire cette maison profondément dans la terre, il faut que je m'interroge sur ce qu'est la terre alchimique en moi. Puisque je vais devoir aussi profondément bâtir les fondations de mon temple dans ma terre. Alors le maçon va se dire, qu'est-ce que ma terre? Si je peux bien comprendre ce qu'est la terre à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que représente la terre? Il faut savoir que dans tout le jargon alchimique, dans tout le vocabulaire kabbalistique, tout ce que l'on peut inclure comme appartenant à la terre alchimique, à la terre symbolique qui est en l'homme, ce sont toutes les énergies qui constituent d'abord le plan physique. Mais quand je dis le plan physique, il ne faut pas simplement résumer ces énergies à la construction du corps physique, car ce serait faux. Quand je parle énergie du plan physique, le corps physique lui-même ne représente qu'une très maigre partie. Il représente donc une sorte de concrétisation, de cristallisation de ces énergies physiques. Que sont donc ces énergies physiques? Les énergies physiques sont toutes les énergies que vous allez connaître au fur et à mesure du développement de votre vie. Dans la première étape de la vie, lorsque vous êtes par exemple à l'état de nouveau-né et de jeune enfant, vous expérimentez très instinctivement ces énergies physiques qui sont de l'ordre de la survie, le besoin de manger, le besoin de respirer, le besoin de boire. Vous allez me dire, mais cela se rapporte de toute façon au corps physique, cela aboutit au corps physique, oui, c'est certain. Cependant, il ne faut pas uniquement résumer les énergies physiques au corps physique parce que le corps physique n'est pas capable de dire qu'il a faim, qu'il a soif ou qu'il doit respirer. Le corps physique, si on veut l'analyser complètement et avec sérieux et avec justesse, le corps physique doit être considéré uniquement comme un rocher. Est-ce qu'un rocher dit qu'il a froid ou qu'il a chaud ou qu'il a soif? Non, un rocher ne dit rien parce qu'il n'a aucun état. Le corps, c'est la même chose. Le corps, lorsqu'il est coupé de ses énergies physiques, et encore plus des énergies de l'âme qui l'habite, mais considérons simplement coupé des énergies physiques, ce corps-là ne connaît aucun besoin. Et c'est pour cela qu'il se détériore d'ailleurs, lorsqu'il y a la mort. Ce qui fait que le corps se détériore, ce n'est pas parce que uniquement l'âme est partie, ce n'est pas parce que, entre autres, le corps éthérique se dissout et que le corps astral aussi. Si le corps physique se détériore complètement, c'est parce qu'il est incapable, lui tout seul, d'émettre des besoins. S'il était capable lui seul d'émettre des besoins, eh bien lorsque l'âme serait partie, il pourrait largement continuer à se nourrir, à respirer, à réclamer de l'eau et à chercher toutes ses nourritures. Et il pourrait continuer à survivre même sans âme. Ce qui fait donc que le corps physique est dans un état de vie lorsqu'il est en vie, ce n'est pas uniquement parce que l'âme est descendue, mais c'est aussi parce qu'il y a, avec les énergies de l'âme, la cohabitation des énergies physiques, que l'on pourrait appeler en quelque sorte les feux de la matière. Et c'est là le point alchimique très intéressant et très important pour ceux qui veulent travailler à leur méditation et à leur transformation. La matière est donc un roc, mais il y a à l'intérieur de ce roc les feux de la matière, les feux du roc. Les endroits qui sont les sièges de ce feu de la matière sont tous les endroits qui se trouvent en dessous de la ceinture abdominale, c'est-à-dire l'endroit de la rate, l'endroit du plexus solaire, l'endroit d'un plexus plus petit que l'on ignore plus souvent parce que ce n'est pas véritablement la peine de travailler avec, qui est le plexus mésentérique, et le feu coccygien, que l'on appelle aussi la base de la kundalini. Grâce à ces feux-là, et à la position précise de ces feux-là, la matière peut organiser une sorte de vie plus ou moins intelligente. Et ces feux, en circulant dans le corps entier, vont prendre connaissance du type de fonctionnement que représentent les organes, comment est-ce qu'ils peuvent travailler, de quoi ils ont besoin pour travailler. Et c'est à ce moment-là que les organes reçoivent leur âme, en quelque sorte, et fonctionnent, et réclament, soit de la nourriture, soit de l'eau, soit de l'air, soit du repos. La vie et la vitalité du corps physique, pris uniquement sur le plan physique, est donc assurée par ces feux de la matière. Donc, lorsque l'on prend un individu au début de son développement, il est normal que ces individus ne soient intéressés que par la survivance qui est naturelle à un corps. Parce que les seuls feux qui sont véritablement en action, les seuls feux qui soient développés et en un certain état de conscience et de rayonnement, ce sont les feux de la matière. C'est pourquoi vous rencontrez partout autour de vous des gens qui n'ont que le souci de bien boire, de bien manger, de bien dormir, de bien connaître l'amour, et pas autre chose de plus. Dans le cœur de celui qui ne connaît pas encore suffisamment l'alchimie et la spiritualité, dans le cœur de celui-là, il va se soulever d'un seul coup un jugement. Tiens, cet être-là n'est pas évolué. Donc, je ne veux pas être son ami. Je ne vais pas me lier avec cette personne. Émettre un jugement sur un être et dire qu'il est évolué ou pas évolué est aussi inutile que d'essayer de renvoyer le vent dans la nature quand il rentre dans votre maison. Vous n'arrivez pas à renvoyer le vent. C'est son état naturel que de souffler et d'aller partout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous enfermer. Mais vous ne pouvez pas contrecarrer le vent, le prendre dans vos bras et le mettre dehors. Il va passer coûte que coûte dès que vous ouvrez la porte. Donc les gens non évolués autour de vous vont exister que vous le vouliez ou pas. Vous les rencontrerez que vous le désiriez ou pas. Et vous serez avec eux que vous le souhaitiez ou pas. Ils sont comme le vent. Ils sont l'état naturel d'une vie et d'une forme de vie sur la planète. Il faut donc accepter, comme vous acceptez les éléments, comme vous acceptez la pluie, le soleil, le beau temps ou le mauvais temps, il faut donc accepter l'existence de ces gens que l'on dit trop vite qu'ils ne sont pas évolués. Quel est le bon comportement à avoir? Pour ne pas être un disciple plein de suffisance et d'incompréhension. Car rabaisser les autres au niveau d'une non-évolution, c'est faire acte d'une certaine fierté, d'un certain orgueil, d'une certaine suffisance. Ne pas vouloir commettre de relation vis-à-vis du plus petit, c'est aussi faire acte d'une certaine prétention. Donc, comment agir juste? Donc, comment être spirituel dans ces cas-là? Car il est vrai que parfois, la cohabitation avec des personnes dont seuls les feux de la matière sont en action, cette cohabitation est parfois un peu douloureuse. Comment donc faire pour être soi-même en harmonie, pour être en harmonie avec les autres, pour comprendre la situation et agir juste et avec amour? Il faut d'abord concevoir les situations et ne plus juger d'après des termes d'évolution, de non-évolution, d'initiation ou de pas-initiation. Il faut complètement évacuer de l'esprit tous ces concepts qui ne peuvent que vous amener qu'à des comportements pleins de suffisance ou de retrait. Une sorte de racisme spirituel. Or, il ne faut pas en arriver là. La spiritualité, la connaissance des degrés vibratoires ou des degrés de conscience, cette connaissance n'a pas été donnée aux hommes pour que l'homme commette et fasse des différences avec cela. Au contraire, si cette connaissance a été donnée aux hommes, c'est pour que les hommes puissent mieux se comprendre les uns les autres et s'admettre les uns les autres dans leurs différences. Nous sommes en train de faire un grand pas au niveau de l'admission, de l'intégration des races différentes. De façon générale, sur la planète se dessine un mouvement qui va d'ailleurs aller en grandissant, car il n'est pas à son apothéose, il n'est qu'à la naissance. De plus en plus sur la planète, donc, on peut remarquer le mouvement de l'intégration, de la tolérance des différentes races. Puisque ce racisme-là commence à être évacué, il ne faut pas en créer un autre qui serait pire, parce qu'il va attaquer le voisin, un parent, votre conjoint, votre enfant. Comment procéder donc? Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement la position des feux et la catégorie des feux. Lorsque l'on a dans l'esprit qu'un individu arrive à un certain moment avec un certain type de feu, il ne viendra pas à l'idée de celui qui connaît cela d'accuser la personne de ne pas être évoluée. Lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, que vous êtes sur un parking où il n'y a que des automobiles et que vous apercevez des petites voitures à côté de grosses voitures, il ne vous vient pas à l'idée de critiquer l'état de la petite voiture. Vous savez qu'elle a été construite comme cela, que cela est son état et que donc il ne sert à rien de discuter. De la même façon, lorsque vous êtes près de gens que vous jugez comme étant différents, comme étant non évolué ou pas assez évolué par rapport à vous, de la même façon, eh bien, il faut penser que c'est leur cylindré qui est comme ça. La puissance de leur feu qui est comme ça. Ce n'est pas leur faute ou leur manque d'intérêt. C'est leur puissance de feu qui n'a pas eu encore le temps ou les occasions de se développer davantage. Donc le rôle est inversé. Il ne s'agit plus pour vous d'accuser quelqu'un de ne pas être évolué et de vous retrancher de la présence de cette personne. Il s'agit pour vous, connaissant sa situation, d'essayer de la faire se développer, d'essayer de l'aider, de fonctionner en tant que soufflet en quelque sorte, pour que ses feux s'activent et déclenchent des rayonnements dans les chakras supérieurs. Car sitôt que des rayonnements, des échos, des petites flammes seront envoyés dans les chakras supérieurs, automatiquement l'individu va être transformé. Automatiquement, son niveau de confiance, de conscience et ses centres d'intérêt vont être déplacés et vont aussi s'épanouir comme la vie est naturelle, s'épanouit dans ces centres-là que l'on dit supérieurs. Selon où est posé, positionné votre feu, votre conscience se positionne avec lui. Si votre feu se positionne dans le chakra sexuel, toute votre conscience est positionnée aussi dans le chakra sexuel. Si votre feu est positionné dans le chakra que l'on appelle le plexus solaire, qui est l'endroit des émotions principalement, eh bien votre conscience va elle aussi se positionner à ce niveau-là, au niveau des émotions principalement. Si vos énergies, si votre feu se positionne dans un autre chakra, par exemple celui du troisième œil, qui est le chakra le plus mental de tous, automatiquement, votre conscience va s'épanouir par un état mental. Et vous allez paraître une personne très mentale, que ce soit avec brio, sens initiatique ou pas d'ailleurs. Car il ne faut pas croire que parce que vous sentez chez quelqu'un ou en vous-même le développement du troisième œil, que cela signifie un haut état de spiritualité à cause de la position du chakra, comme s'il occupait une position hiérarchique. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les points d'ouverture des chakras et le développement de conscience qui rayonne d'un individu, c'est qu'en plus de cette montée dont je vous parle, qui passe d'un chakra à l'autre, le long de l'épine dorsale, il y a aussi un développement en profondeur. Il y a donc un développement vertical, et chaque fois que le développement vertical est acquis d'un pouce, il faut commencer un développement horizontal, en profondeur à l'intérieur du chakra. Pourquoi ? Parce que de la même façon que tout est constitué en trois parties de façon générale, de la même façon un chakra lui aussi est comme revêtu de trois enveloppes primordiales, trois degrés de conscience donc, trois marches. Ainsi vous pouvez rencontrer des individus dont le chakra cardiaque marche déjà suffisamment. On peut y repérer une certaine lueur pour ceux qui sont clairvoyants. On peut y repérer une certaine chaleur pour ceux qui savent détecter avec les doigts. Ou on peut en recevoir un certain amour, un certain rayonnement pour ceux qui croient ne rien percevoir d'autre que cet amour. Et pourtant, la personne ne va pas forcément ni tout le temps signer un grand comportement spirituel. Alors là, les clairvoyants, les médiums, les guérisseurs ou simplement les amis de cette personne se grattent la tête et se disent « mais ce n'est pas possible. Je sens, je vois, je suis sûre que son chakra est développé. C'est un chakra spirituel. Alors comment cela se fait que hier, cet ami, cette personne a réagi de façon complètement négative, complètement aberrante et à l'encontre de la spiritualité ?» Lorsque l'on sait qu'il y a ces trois couches majeures à l'intérieur des chakras, il est facile alors de pouvoir conclure que le développement n'est pas terminé jusque dans la profondeur du chakra. C'est pourquoi dans un premier temps, les personnes qui ont une certaine ouverture au niveau du chakra cardiaque vont avoir les émotions extrêmement exacerbées, comme si ces personnes étaient extrêmement astrales. Car les émotions exacerbées, les émotions trop fortes, sont justement la manifestation des énergies de l'astral. Cependant, lorsque vous sentez ou lorsque vous pouvez conclure à cause de l'état d'esprit d'une personne ou de son comportement général, que le chakra cardiaque lui aussi est éveillé, que de temps en temps il y a par trop d'émotions, cela veut dire que les émotions tentent, tant bien que mal, de se purifier et de monter dans le chakra cardiaque où elles ont commencé à faire leur nid mais seulement au niveau de la première couche. C'est pourquoi à cet endroit qui est l'endroit de l'amour, de la vibration la plus absolue de l'amour, mais de l'amour qui rayonne. Autrement dit, le chakra cardiaque est la porte de l'amour. L'amour n'a pas que le chakra cardiaque comme siège. L'amour peut aussi résider dans la tête, dans le chakra coronal. Mais ce sera un amour beaucoup plus contemplatif, qui donc vise davantage la personne elle-même pour ses méditations, pour sa vie intérieure. Tandis que l'amour que la personne va donner à l'extérieur, cet amour va passer par le chakra cardiaque. Donc, comme ce chakra est le siège de l'amour absolu et du rayonnement de cet amour, donc de l'extraversion de cette vibration, il est normal que les personnes qui n'ont pas approfondi ce pouvoir qu'est l'amour et ce chakra de l'amour, il est normal qu'elles débordent d'une certaine émotion et qu'elles soient extraordinairement sensibles, hypersensibles, très susceptibles, ce qui, à l'inverse, peut les rendre extrêmement irritables. Car la susceptibilité, si elle peut être poussée à l'extrême dans la compréhension du beau, du vrai, du juste, tous ces concepts extrêmement positifs que l'on peut ressentir par l'hypersensibilité, lorsque l'on renverse le concept, eh bien, l'on obtient l'irritabilité, la capacité excessive de se trouver dans un état de vexation ou de contrariété ou de manque de confiance en soi ou de crainte de l'avenir, la peur de l'autre, la peur de l'incertain. Lorsqu'à côté de vous, vous rencontrez quelqu'un qui est particulièrement touché justement par toutes ces peurs, la peur de l'avenir, la peur de l'incertain, la peur de changer quelque chose, la peur d'aller de l'avant, de peur justement de perdre ce qui est acquis et qu'il n'y ait plus de base sûre. Lorsque vous rencontrez des personnes qui ont sans arrêt ces réflexes de peur, il faut savoir qu'ils vivent le négatif de la première enveloppe du chakra cardiaque. Ce sont donc des êtres déjà d'un certain niveau qui ont acquis une certaine évolution, qui ont été capables de monter les feux, qui commencent à travailler au niveau du chakra cardiaque, mais ils n'ont pas encore suffisamment eu d'expérience et d'occasion pour approfondir ce feu et le rendre complètement positif, et en faire une force d'action, une force de décision, une force de rayonnement. Au lieu donc de les critiquer et de les trouver trop astro, comme c'est ce que diront la plupart des gens, il faut au contraire savoir les catégoriser, les diagnostiquer et apprendre à leur donner confiance. Apprendre par des choses très faciles, ne serait-ce que par le témoignage de l'amour, ou ne serait-ce que par la parole en démontrant le nombre de fois où ils auront été efficaces et compétents, leur apprendre à avoir quelque chose de positif dans leur démarche, de façon à ce que ce feu ne brûle plus la tête en bas, mais la tête en haut. Une fois que ce changement de polarité, car il ne s'agit que de cela, c'est un changement de polarité, une fois que ce changement de polarité a été opéré, automatiquement le feu va être augmenté, car il a le vent en poupe, en quelque sorte. Et il va pouvoir approfondir son évolution et donc attaquer la deuxième enveloppe du chakra. Où là, on va pouvoir découvrir un véritable état de conscience. Alors qu'avant, ce n'était que le développement, l'acquisition de certaines qualités. Là, je voudrais faire une petite parenthèse à propos du mot qualité et du mot conscience. Il faut savoir que dans les lois de l'occultisme, telles que nous les entendons, les qualités ne sont que les prémices de la conscience. Il est bon d'avoir des qualités, c'est meilleur bien sûr que d'avoir uniquement des défauts, mais cependant les qualités et l'exercice des qualités n'est pas la démonstration de la perfection d'un être humain. Si vous voyez dans un homme, dans une femme, des qualités, vous pouvez être sûr que cet être avance, mais qu'il n'est pas encore au but. La conscience est ce qui est par-delà la qualité. Même une qualité aussi belle que, par exemple, la tolérance, la compréhension, la patience, etc. Ce qui ne veut pas dire que lorsque l'on a basculé dans la conscience, il n'y a plus l'existence de ces qualités. Au contraire, elles existent encore plus et encore mieux. Mais non plus comme des qualités, simplement comme des états. C'est une subtile différence, mais il faut que vous vous entraîniez à pouvoir capter, mentaliser ces différences, pour que vous puissiez développer comme il faut vos abstractions, vos subtilités mentales, votre perception intuitive surtout. C'est cela qui est intéressant dans le jeu du mental. C'est que si l'on arrive à de plus en plus subtiliser la conception mentale, on en arrive à obtenir un mental intuitif. Au lieu d'être face à un mental intellectuel et par trop concret. Avec la subtilisation des concepts au fur et à mesure, comme une note qui donc monte jusqu'en haut de la gamme, à un moment donné, la note bascule dans une zone inaudible. Et c'est là l'intuition. Lorsque vous avez réussi à subtiliser tellement votre concept, à abstraire tellement fort votre concept, que d'un seul coup, la mentalisation elle-même n'existe plus, il n'y a plus que le concept qui d'un seul coup jaillit hors de lui-même et vous contemplez le concept. C'est ce que tous les méditants cherchent à travers la méditation. Ils se disent, je vais méditer sur ce sujet, sur l'amour ou sur l'éternité ou sur Dieu ou sur la liberté. Et je vais enfoncer mon esprit dans cet objet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas simplement utiliser la méditation telle que généralement les gens la pratiquent sous forme passive, mais il faut aussi utiliser la méditation active. C'est-à-dire la pensée. Il va falloir utiliser la pensée dans ce cas-là, non pas simplement pour réfléchir, cela ne mène à rien qu'à la réflexion, mais il faut pousser la réflexion dans des modèles chaque fois plus subtils de conceptualisation. Et lorsqu'à un moment donné, vous poussez l'abstraction à son extrême, la peau se retire, le mental éclate et le concept apparaît. Pour réfléchir de la sorte, il ne faut pas choisir un sujet et décider que l'on va percer le sujet par cette forme de méditation active, qui était une forme de méditation beaucoup employée par les moines. Qui prenait un sujet, qui réfléchissait sur le sujet, puis petit à petit, comme un taureau s'élance ou comme un train s'élance, petit à petit gonflait, élargissait, subtilisait leur réflexion jusqu'à déboucher dans le concept lui-même. Il ne faut pas choisir comme cela un sujet, il faut prendre le sujet qui vient vers vous. Et c'est là la chance de gagner la victoire, de gagner donc la découverte du concept. Si vous prenez un sujet, il y a des risques d'échec. Pourquoi ? Parce que le sujet n'est pas forcément celui qui convient à votre développement actuel, ni celui dont l'âme a besoin pour pouvoir s'épanouir davantage. Ni celui dont vous avez véritablement besoin en tant que compréhension pour développer le lien avec l'âme. Il faut donc prendre les sujets qui viennent vers vous, les sujets qui crient sur vous dans votre vie privée. Et pour cela, observez votre vie. Regardez ce que votre vie vous apporte le plus souvent. Est-ce que c'est la rencontre avec la difficulté ? Est-ce que c'est la rencontre avec l'argent? Est-ce que c'est la rencontre avec la mort pour ceux qui ont perdu de nombreux parents ou de nombreux amis, comme s'ils étaient marqués par ce destin-là qui est de perdre? Est-ce que le plus souvent la vie vous envoie d'autres contemplations, comme celle du mariage, celle des enfants, ou de l'éducation, ou du corps, ou de la santé? Regardez ce que la vie vous envoie le plus souvent, à côté des grands thèmes généraux qui sont la vie de tout le monde. Et vous prenez ce sujet à l'intérieur de vous et vous réfléchissez comme si vous réfléchissiez à un de vos soucis, c'est-à-dire de façon constante, presque négligemment, presque automatiquement. Et puis vous faites un répertoire de tout ce que vous pensez une première journée ou une première semaine. Et les réflexions seront très terre à terre. Puis vous essayez de pousser un peu en vertu de ce que tout, de ce que vous connaissez à propos de toute la spiritualité ou des quelques dogmes dont vous avez entendu parler. Et puis vous méditez à ce moment-là. Là, véritablement, vous faites une place à l'introspection et à la passivité par la méditation. Puis vous redémarrez une phase active grâce à l'énergie qui a été accumulée pendant la méditation. Essayez de repenser de nouveau au sujet et vous allez voir que vous allez y penser de façon complètement différente. Pourquoi? En vertu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le comprendre aisément. Là où vous positionnez vos feux, votre conscience se positionne elle aussi. Donc, si vous méditez, vous accumulez un peu d'énergie, et si vous vous débrouillez assez bien dans la méditation, vous arrivez quand même à faire monter un peu les feux. Avant qu'ils ne retombent, il faut vous dépêcher de réfléchir au sujet qui vous est proposé, de façon à pouvoir concevoir le sujet depuis l'endroit où les feux sont arrivés à monter grâce à la méditation. C'est pourquoi les moines entrecoupaient toujours des périodes de prière et de méditation avec des périodes de réflexion et de lecture de la Bible. Parce qu'ils savaient que l'énergie ou l'amplitude d'esprit qui leur avait été accordée grâce à la prière, grâce à la méditation, cette amplitude-là allait leur permettre de visionner, de comprendre la chose de façon complètement différente. Et en entrecoupant comme cela des périodes de réflexion et d'accumulation d'énergie, au bout d'un certain temps, cela peut être variable d'une personne à l'autre. Il peut s'agir d'une semaine, comme de plusieurs mois, comme de plusieurs années. Tout dépend avec quel talent vous arrivez à positionner les feux ailleurs qu'à l'endroit où ils se trouvent. Et avec le temps, donc, vous allez voir que votre réflexion, votre concept va se trouver différent. Si l'on prend la vie de n'importe quel profane, on s'aperçoit que la pensée d'un enfant n'est pas du tout la même par rapport à la pensée du maître, mais lorsqu'il aura 30 ans, et qu'elle n'est toujours pas la même lorsqu'il aura 60 ans. Pourquoi cette progression ? Ou cette détérioration, car il n'y a pas forcément que de l'avancement vers le bien dans la vie profane. Mais admettons qu'il y ait une progression. Pourquoi cette progression? La plupart des gens vont dire, mais il y a eu la vie, il y a eu l'expérience, il a mûri, donc il comprend différemment. Bien sûr, c'est la réponse. Mais maintenant, transposons au niveau spirituel. Si cette personne a grandi, si cette personne a vécu, c'est qu'elle a, en même temps qu'elle a grandi et vécu, déplacé le siège de ses feux. Donc ce n'est pas tant le fait que la personne ait grandi physiquement, que la personne se soit transformée biologiquement, que sa pensée a changé. Ce n'est pas tant donc à cause des changements sur un plan physique, et sur un plan mental concret, ce n'est pas cela qui donc a apporté l'évolution de la pensée. C'est parce que grâce au temps qu'il a vécu, par les expériences qu'il a accumulées, il a positionné ailleurs les sièges de ses feux. Donc ailleurs les sièges de sa conscience et les sièges de ses conceptions. Un enfant de 10 ans peut donc arriver avec une conscience tout à fait développée. Avec une conscience qui est plus grande que celui qui est sur le point de mourir parce qu'il est âgé de plus de 80 ou 90 ans. Parce qu'il vient avec des sièges positionnés en des endroits supérieurs par rapport au vieillard. Ce qui ne veut pas dire que cet enfant ne va pas agir de manière infantile. Certes, il y a quand même la maturité du corps physique et de l'appareil cérébral qui lui est tout nouveau, tout neuf. Cette maturité-là va compter et va devoir attendre son heure pour pleinement rayonner, c'est certain. Mais cependant, au cours des âges, au cours des années, pendant la croissance, l'individu va signer et peut signer un avancement plus grand, une conception plus grande que les parents ou que les autres personnes plus âgées. La maturité donc ne vient pas uniquement du fait que le corps avance en âge et que la vie est tombée sur l'individu, car il y a des gens qui vivent des vies très longues, des vies pleines d'événements et qui ne vont pas forcément se développer, qui ne vont pas forcément s'ouvrir à l'amour, à la tolérance, à la patience. Donc le temps que l'on vit et les expériences que l'on fait ne sont pas forcément le creuset de l'évolution. Et pourtant, avec le temps, à force de répéter ces expériences, finalement,